418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Ça fonctionne par texto. Même chose, si vous avez des choses à nous dire, dites un petit coucou à Pascal par texto. Elle aime bien ça.
Moins pour 12. Quelle raison? Elle aime bien ça.
Elle aime bien recevoir de l'amour. On a vu ça vendredi. C'était la Saint-Valentin. Oh. T'as-tu été gâté vendredi passé?
Oui.
Il y a des gens qui avaient des beaux messages.
Hein? Oui, j'ai vraiment été chanceuse. Vraiment. C'est sûr que tu as lu les plus comiques, là.
Oui. Oui, puis celui-là de ton éducatrice, c'était un des meilleurs qu'on a reçus, mais comme c'était trop quétaine, je me suis dit, je passerai pas sans. Donc, moins 12 degrés. Avec le vent, c'est un genre de température ressentie de moins 22. Fait frette, pas chaud pour la pompe à l'eau. Faible neige pour ce qui est d'aujourd'hui, faible neige pour ce qui est de ce soir. Maximum de moins 8, minimum de moins 9 pour ce soir. Généralement nuageux avec un maximum de moins 2. Ça, c'est pour demain, jeudi et vendredi pour terminer la semaine de travail. Ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de moins 4 degrés. Elle est du soleil, elle est aussi notre collaboratrice. Son nom, c'est Valérie Godreau. Salut Valérie!
Bonjour! Allô Yannick, allô Pascal!
Comment ça se passe, salut. Le déneigement de la rue dans le secteur du centre-ville?
Ça va bien. Moi, j'ai été assez surpris. Est-ce qu'on est les meilleurs au monde, comme le dit M. Marchand? Mais franchement, dès hier matin, notamment, j'avais affaire très très tôt sur Saint-Jean, puis Saint-Roch, Saint-Jean, en tout cas, franchement, ça... C'est assez impressionnant. Hier, le maire parlait dans la nuit de lundi à mardi, 10 000 voyages de neige.
Hey, c'est du stock. Hein.
T'sais, nous, on ça vit, pas de sens.
Ouais, nous, on vit deux jours, là, puis le soir, on relaxe, puis la nuit, on dort. Ces gars-là puis ces filles-là qui travaillent sur la neige travaillent extrêmement fort. On n'a pas idée à quel point ces gens-là travaillent fort quand il y a des grosses bordées de neige demain. C'est des longues heures, ça finit plus.
Sans arrêt, ça retombe pendant qu'ils grattent. Mais moi, je me demande, puis là, c'est peut-être moi qui est mal, qui est pas correct, là. Je suis peut-être de mauvaise foi, mais comment après, ça peut mal se passer à certains moments où on reçoit énormément de neige, mais pas autant qu'on en a eu cette semaine? Comment on l'explique?
Ben, est-ce qu'il y a une espèce... Ouais, c'est ça, parce que là, c'est exceptionnel. C'est... Ben, est-ce qu'il y a une espèce de mobilisation tellement importante deux fois en 5 jours, en 4 jours? On n'a jamais ça, là. Ça se passe effectivement bien. J'ai l'impression que les fois où on se fait prendre un peu, où le déneigement est moins réussi, si on dirait quand c'était moins annoncé, puis tout à coup, oups, un redout, ça a dû tourner en verglas, ou en fait, tu sais, comme toute l'espèce de caractère imprévu.
Ouais. Ou quand ça finit plus, là, tu sais, à un moment donné, il faut que les gars aillent se coucher. Il y a un nombre d'heures, eux autres, qui peuvent travailler, versus il faut qu'ils dorment aussi au travers. Fait que quand ça finit plus, les bordées de neige, des fois, ils ont un peu plus de misère, et ça, c'est tout à fait normal. Je me rappelle pas si c'est 2008 ou 2011, Pascal, un record d'accumulation de neige à Québec, c'était 5,70 m de mémoire.
Exact.
Ça n'avait pas de bon sens, là.
2008. Je pense, t'as raison, parce que j'avais associé, je me disais, mon Dieu, pour l'année du 400e, c'est vrai que tout se passait en 2008. Et en plus, c'est une année où on a visiblement bien souligné notre nordicité. Et de toute façon, tu sais que j'aime l'hiver et je sais que Pascal aime l'hiver aussi. Oui. Fait que ça fait partie de notre quotidien. Puis c'est pour ça que moi, je suis un petit peu... Évidemment, il faut que les services publics soient rendus, il faut que la sécurité des gens soit assurée, mais tu sais, je trouve que des fois que les réseaux sociaux, on est très impatients envers les travailleurs, que ce soit les cols bleus ou les traitants.
Est-ce que c'était l'enfer sur les spotted? Il y avait un monsieur qui avait déblayé en avant de son stationnement pour pouvoir sortir la voiture. Puis je comprends, c'était lourd, puis ça devait faire plusieurs heures qu'il était là-dessus. Puis sa caméra de maison a filmé qu'au moment où il est dans les derniers coups de pelle, la gratte pour la rue passe, puis remet un remblai là, qui venait de déneiger, puis il écrit « Gros trou de cul! Font-tu exprès? » Mais c'est parce qu'après, tu veux pas qu'il déneige la rue?
C'est ça. Puis ils peuvent s'arrêter à ça. C'est ça.
Hey, absolument.
Valérie, oui, on parle d'un gros projet. On dit que c'est un gros projet. Moi, je le mettrais encore plus gros que ça. Je parlais de ça avec Pascal en début d'émission. Le fameux TGV qu'on veut instaurer et mettre en place, ça va coûter une petite fortune, mais je le verrai encore plus grand que ça. Que ce soit sur 10 ans ou 20 ans, moi, je le vois coast to coast, que ça traverse le Canada, puis qu'on un genre de terminal à Toronto qui puisse faire en sorte qu'on peut descendre aux États-Unis à la même vitesse. Puis même là, je trouve qu'une heure et demie pour monter à Montréal, Québec-Montréal, c'est pas assez. Il faudrait que ce train-là aille plus vite. Je suis emballé par ce genre de projet-là qui va toucher les autres générations, mes enfants, mes petits-enfants. Oui. Puis là, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent que ça coûte cher puis qu'on n'est pas rendu là, mais ça en prend des projets de société.
Ah, mais... Alors là, on est là dans l'envergure de, tu sais, je vais pas jouer la carte historique là, de l'autoroute transcanadienne, mais c'est quand même, c'est ça, hein, prendre aussi possession de son territoire dans une époque où on a des moyens de plus en plus technologiques de le faire, pas à faible coût, parce qu'effectivement, l'enjeu là, des coûts va être énorme. Regarde, 3,9 milliards là, pour le consortium donc qu'on appelle Cadence pour l'élaboration du train qui va s'appeler Alto. Ben là, c'est ça. Faut identifier le tracé, l'échéancier. Bon, on est vraiment en phase préparatoire. C'est pas la première fois. Ce matin, j'ai échangé avec Pascal en prévision de notre chronique, puis je lui envoyais un texte que j'avais écrit en octobre, hein, lorsque le TGV était revenu comme soudainement, parce que là, pendant des années, on a parlé de train à grande fréquence. On est revenu au concept de train à grande vitesse. Et j'avais recensé à l'époque un petit peu comme une espèce de revue de presse. Juste dans le soleil, là, ça faisait 40 ans qu'on en parlait, tu sais, du corridor Québec-Windsor, Québec-Toronto, Montréal-Trois-Rivières. Bon, ça a changé au fil des ans, mais c'est le genre de projet dont on a besoin. Moi, ça m'emballe beaucoup. Est-ce qu'effectivement, ce dont tu parles, ce grand chantier de pan-canadien, ce serait assez extraordinaire.
Ouais, on parle d'une vitesse de pointe de 300 km/h. C'est juste que Québec-Montréal, ouais. 1h30, je vois pas ben le bénéfice. Alors que, moi, j'adore prendre le train, je l'ai pris 2-3 fois de Québec pour aller à Montréal. Écoute, c'est le paradis, là. Tu peux continuer de travailler là-dedans. Tu dors, oui. C'est hyper confortable. Mais le fait qu'on me coupe peut-être une demi-heure, 45 minutes, là, si je prends le train versus l'automobile, je ne sais pas si les gens vont dire « Ah, ben à 300 km/h, moi, je vais prendre plus le train que l'automobile. » On dirait qu'il n'y a pas une grosse différence.
Oui, il frappe moins l'imaginaire que si tu avais dit Québec-Montréal en une heure. Là,
une heure 45 minutes. Là, ça pourrait impliquer des gens qui travaillent à Québec mais qui habitent à Montréal, ou le contraire, des gens qui travaillent à Montréal puis qui habitent à Québec, là?
Ah, absolument! Je veux dire, tu regardes, là, les trains, même, tu parlais des États-Unis tantôt, mais même dans la région de c'est pas tout des TGV, mais des bons systèmes de trains. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent à Manhattan, qui habitent au Connecticut, là. C'est complètement fou, là, c'est une heure. Mais, effectivement, dans des conditions où tu peux continuer à travailler, ou de toute façon, c'est pour être dans le trafic, ça pourrait effectivement élargir vraiment le bassin d'une population qui peut travailler. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Évidemment, tout ça, c'est annoncé par un premier ministre qui est plus que canard boiteux. Il s'en va, M. Trudeau.
Mais c'est là. C'est là où je voulais t'amener. Est-ce que c'est légitime d'amener un projet comme ça alors que tu es un premier ministre sortant? Je trouve ça particulier parce que lui, il veut un leg. Là. C'est clair qu'il veut un leg, puis il veut pas être dans les livres d'histoire uniquement pour les mauvaises raisons. Fait que j'ai l'impression qu'il met ça de l'avant pour que, justement, on lui dise « ben ça, c'est un leg de Justin Trudeau, que ce soit écrit dans les livres ». Mais c'est pas un premier ministre qui est légitime, puis il arrive avec un projet de cette envergure-là.
Absolument. Faut dire que, bon, à l'automne, quand le projet... Faut dire que c'est pas d'hier, hein, on parlait le même que via TGF, qui avait été... on avait créé une société d'État, ça fait 5-6 ans là, qu'on est plus sérieux sur un projet de ce type-là. Donc, c'est sûr qu'il sort pas ça de son chapeau là à un mois de son départ. En octobre, le climat électoral était pas très bon, là. Il était pas déjà on disait hein, mon Dieu, il a l'air d'un gars qui veut laisser quelque chose. En même temps, c'était peut-être pas aussi marqué qu'aujourd'hui. Mais si les joueurs sont là, les acteurs sont là, puis que c'est un projet, puis ça, c'est toute la grande question. Puis on l'a avec le tramway à Québec, on l'a avec l'éventuel troisième lien. Je veux dire, tout ça est nécessairement à la merci aussi d'élections, de sensibilité électorale. Ouais. Alors, est-ce qu'il veut essayer de closer? C'est sûr qu'il n'y aura jamais l'occasion de confirmer ça comme une mise en chantier, parce qu'on le voit parce qu'il est attribué ce matin. C'est des phases quand même préparatoires. Un peu comme on dit, ben oui, on veut le faire, mais là, il y en a au moins pour 5 ans là à regarder, à identifier, le tracé, les échéanciers. Alors, même Trudeau, s'il restait, imaginerait peut-être même pas avoir un projet détaillé avant un autre mandat complété. Alors, je pense qu'il faut penser long terme dans ce temps-là. Caractère électoral, je suis d'accord avec toi, ça paraît bien pour finir son règne, mais la conclusion de tout ça n'aurait jamais de toute façon été dans un horizon où il aurait pu se péter les bretelles à court terme.
Ce qu'on comprend, c'est que le premier ministre actuel quitte le 9 mars prochain. Il devrait avoir un premier ministre non élu qui va prendre place pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines ici, le NPD ou le Bloc québécois s'associe avec le Parti libéral. Bien, ça pourrait peut-être être plus long que ça. Mais on s'est assuré que un gouvernement conservateur ou libéral ne pourrait pas annuler ce qui va être mis en place actuellement.
Voilà. Mais ça, puis ça reste, on le souhaite toujours d'avoir de ces clauses là, qui, mais tu sais, en tout cas, ça reste toujours difficile. Après, on peut dire oui, on y va. Après ça, quels seront les résultats au final de l'échéancier, des coûts finaux? Il y a toujours la situation économique, la capacité de payer. Tu sais, après, il y a d'autres raisons qui pourraient faire en sorte qu'un éventuel gouvernement s'en détache. Mais à court terme, effectivement, puis je pense que tu évoquais là pour la dynamique à la Chambre des communes, tu disais oui, la NPD, ou tu sais, si on le maintient un peu au pouvoir, mais je pense que je vais aller plus loin que ça. C'est même Mark Carney, s'il est élu, lui, il dit le 10 mars, on est en élection. Là, fait que il n'ira pas là. Lui, là, tant qu'à attendre de se faire renverser, il va dire let's go, on fonce. Là, fait que tout ça est bien, bien hypothétique.
C'est important de faire confiance aux gens qui sont en élection. Ils nous disent tellement tout le temps la vérité, puis ils réalisent tout le temps leurs promesses que on n'a pas de. On n'a pas à les remettre en doute. Puis pour ce qui est de ce projet-là, ce que je comprends, c'est que la deuxième phase qui est annoncée mercredi de co-développement là, suivra la phase de construction. Et à ce moment-là, parce que là, on parlait de 3,9 milliards, tu sais, la plupart des gens disaient « Ouais, pour un projet comme ça, 3,9 milliards, c'est pas cher. » Bien, après ça, là, on s'embarque dans plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, 200 milliards qui ont été invoqués pour le TGV. C'est très, très cher, mais c'est quelque chose qui va servir à nos enfants puis à nos petits-enfants, puis à nos arrière-petits-enfants.
On espère le voir de notre vivant. La comparaison, justement, t'évoques des centaines de milliards. Un des parallèles, disons, qui est dressé, c'est le TGV en Californie, qui eux autres, c'est depuis 2008 là, qu'ils ont commencé à réfléchir à ça, et qui pourrait être jusqu'à 180 milliards. Donc là, si avec le climat californien, avec la main-d'œuvre, on est là-dedans, on est vraiment dans des eaux là, de dizaines, de centaines de milliards. Donc, c'est vraiment un projet. Quand on parle de projet structurant, hein, c'est le terme à la mode pour parler du tramway, mais là, on est vraiment dans d'autres choses qui pourraient changer, comme on évoquait tantôt, la dynamique du déplacement des travailleurs, du tourisme, de la clientèle d'affaires, de n'importe qui, je dirais. En tout cas, moi, je le souhaiterais effectivement. J'achèterais pas mon billet de suite, mais j'espère le prendre un jour avant mon décès.
Mais mettons qu'on regarde pas le prix. Mettons qu'on est, toi et moi, des gens de Québec solidaire, puis on peut tout avoir avec l'argent des autres, puis on regarde pas le prix. Moi, j'y vais, c'est coast to coast, là. C'est vraiment d'un océan à l'autre.
Début, là,
c'est ce que je voudrais. Ce serait incroyable. Puis en plus, ben, rendu à Toronto, tu prends une ligne qui descend vers les États-Unis puis qui fait le tour des grosses villes américaines. Ce serait un beau projet qu'on pourrait faire avec les Américains, là, considérant le fait qu'on va être le 51e État à un moment donné.
C'est ça, une autre étape à franchir d'ici là. Mais ça rappelle, c'est comme en Europe. Je veux dire, le TGV en Europe, c'est tellement extraordinaire. En fait, la Suisse, la France, c'est exceptionnel. C'est un autre mode. Puis les gens, on le voit, en tout cas, je ne sais pas chez vos auditeurs. Moi, je pense que les gens, si je regarde un peu les réactions au soleil, c'est tout, ça serait super. Tu sais, on dirait qu'on... On est rendu sceptique là, quand même. Faut pas se cacher sur les grands projets de transport. On a vu beaucoup qui se réalisent pas. On a vu qui ont été annulés, annoncés, réannoncés, réannulés. Je pense qu'on a de la misère à se figurer dans quelque chose qui pourrait se faire pour vrai. Là. Mais c'est quand même un projet. On sent que ça emballe là, quand même globalement. Là, je pense que là-dessus, il y aurait plus d'adhésion là, sociale que d'autres projets de transport.
Ouais, je lisais des articles hier du Soleil qui mentionnait Jonathan Julien qui s'est fait dire non par Ottawa. On va prendre l'argent où, Valérie?
Écoute, bon. Là, on joue sur les mots beaucoup hein, dans ce dossier-là, parce que là, M. Julien, dans le fond, ce qu'il a fait, il a refait la lettre que Mme Guilbeault avait donnée à Jean-Yves Duclos.
En fait,
essentiellement, le contenu de la lettre, là, c'est la même que Jean-Yves Duclos envoyait à Geneviève Guilbeault, dans laquelle il invitait à une mobilisation pour assurer que le gouvernement, si jamais, sans le dire, sous-entendait que c'était M. Poilievre qui était élu puis qui voulait rien savoir, ben est-ce qu'on peut nous garantir? Mais tu sais, tout le monde joue sur les mots. Ils disent 1,4 milliard, il est là. On dit que... Puis toute la question de où on en est dans l'étape, tu sais. Parce que l'argent fédéral peut pas payer. Dans cette enveloppe-là, là, tu peux pas payer ce qu'ils appellent des phases de préparation. C'est ce qu'on en comprend. Là, on dit, puis même la CDPQ, ils disent, on est en réalisation, on n'est pas en préparation. Donc là, c'est les critères d'un bord, c'est la volonté de l'autre, c'est la volonté de croire aussi que l'argent va venir, mais si jamais il se retirait complètement, moi, je le vois pas. En tout cas, pas dans la volonté que traduit. Si on parle précisément du tramway, non pas du troisième lien, mais si on parle du tramway, je ne sens pas chez la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, présentement, l'engouement pour aller se battre tant que ça pour le tramway. Là. Parce que dans un monde où on dirait on le paye tout au provincial, je veux dire, ça serait, en tout cas, ça pourrait, tu sais, mais... Est-ce qu'on a ces moyens-là? Clairement, la situation économique, ça s'en va. J'ai hâte de voir, là, dans un mois, on va avoir un nouveau budget. Combien de milliards de déficit et tout ça. Donc, on est encore à la même place.
Mais au
puis
niveau...
J'ai vu la lettre hier, là. Ouais. Yannick, c'était le jour de marmotte, là. Ouais. C'était les mêmes mots. C'était quasiment copier-coller.
Et Valérie Gaudreau, au niveau stratégique, là, que le gouvernement fédéral actuel, dont c'est le parti de Justin Trudeau, dise, ben faites pression sur les conservateurs de Pierre Poilievre dans ce dossier-là. Mais il semble que c'est comme une façon de se détacher du projet du TGV, du tramway. Là.
Ben, c'était... ouais, mais c'est effectivement... Puis, bon, on pourrait... Ce que les troupes de M. Duclos disaient, c'était, ben non, mais ben, au contraire, c'est une responsabilité, tu sais, quelque chose de responsable que de... Mais en même temps, c'est ça, c'est aussi comment te dire ça sans admettre que t'as peut-être des chances de peut-être au pouvoir, là, tu sais, c'est un peu une arme à double tranchant, ouais. Là, tu dis, oui, je suis avec toi, mais parce que je serai plus là, tu sais, OK, t'as une grosse confiance en ta victoire, tu sais, il y a toute cette réflexion-là aussi qui peut jouer. Je pense qu'on voulait envoyer un message aussi de dire, travaillons ensemble, montrons un message, parce que ultimement, je sais pas. T'sais, honnêtement, là, je l'avais caricaturé de même en chronique à un moment donné. C'est 1,5 milliard là, il est où? T'sais, il est comment? Là, on nous donne des acronymes, on dit que c'est réservé, pas réservé. Je veux dire, un coffre-fort quelque part à Ottawa qui a l'argent dedans, là. T'sais, je caricaturais, mais on se disait il est où? Et là, de voir des réponses comme ça d'un autre ministre, c'est plus Sean Fraser, là. Ça a été envoyé, M. Julien a envoyé ça au ministre Nathaniel Erskine-Smith, qui est relativement nouveau dans les fonctions. Et clairement, c'est le même mot. Donc, je sais plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir pour convaincre Jonathan Julien et Geneviève Guilbeault. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir pour que le gouvernement du Canada dise fermement, mettez-le dans les factures, là, vous lavez l'argent. Là. Eux, ils disent, il faut avoir la facture avant, puis le gouvernement du Québec dit, ben, j'ai pas encore dépensé, je peux pas t'amener la facture, tu sais. C'est prête-moi l'argent, je vais aller faire l'épicerie plus tard, t'sais. Très complexe.
Puis moi, il est hors de question que la Ville de Québec donne une scène de plus dans le dossier du tramway. Là, j'ai vu mon compte de taxes augmenter là, à 4 ans. Je pense qu'ils m'ont grimpé ça de 1500$. J'ai pas plus de services. Puis là, nos cols bleus ramasseront pas nos vidanges pendant un mois. Je voulais te parler de ça. D'ailleurs, j'en parlais avec Denis.
Oui.
Je vais te donner mon... je vais te montrer mes cartes d'entrée de jeu. Là. Moi, je suis pour que les gens, à chaque année, puissent renégocier leur contrat pour avoir une augmentation de salaire. Le coût de la vie augmente. Bon, eux autres sont syndiqués, donc ils ont un bras, ils peuvent faire une pression supplémentaire, mais je décroche totalement à partir du moment où on s'attaque à nos enfants. Nos enfants seront interdits de loisirs pour ce qui est des prochains jours en raison de la grève des cols bleus. Nos enfants seront interdits d'avoir des games de hockey en raison de la grève des cols bleus. C'est là où je décroche, puis écoute, il y a énormément d'auditeurs qui nous écoutent présentement qui sont des cols bleus. Puis de ce qu'on comprend, là, ils sont d'accord avec pas mal toutes de leurs syndicats, sauf cette portion-là où on s'attaque aux enfants, parce qu'après ça, sur le terrain, c'est eux qui vont manger le backlash. Là.
Absolument. C'est tout l'enjeu de cette grève. Hein. Tu veux être là où ça fait mal, où il y a un impact, où ça fait parler. Là, on le voit, là, elle n'a pas commencé. C'est demain. Là. Dans 24 heures, à peu près, la grève va être déclenchée. Nous, on a déjà un texte du collègue Jean Carrier là, qui parle de plein d'organisations sportives qui déjà, les parents sont avisés, les auditeurs doivent vous en parler aussi, le hockey, les arénas, les piscines, tout est affecté. On assure le service pour le tournoi Pee-Wee puis la Coupe du monde junior de patin de vitesse, là, qui sont comme deux événements compétitifs déjà décidés. Mais ce que vont dire les syndicats dans ce temps-là, c'est « Ouais, mais si ça perturbe pas, ça fera pas avancer notre cause. » Parce que les gens vont se dire « Ben, ça change rien, moi, que la gratte... » Tu sais, je veux dire, c'est assez complexe, là. On s'entend, les services essentiels qui ont été annoncés aujourd'hui. Moi, hier, là, je lisais la décision du tribunal administratif du travail, puis tu dis « Oh, OK, ils en font des affaires, les cols bleus, quand même. » Et c'est très pointu, là. Tu sais, sur le déneigement, on parle de 9 cm, on dégage à 50%, là, tu sais, tout ça. Donc, le coût le plus... L'image la plus forte, c'est les jeunes. Et ça, oui, il y aura un backlash potentiel. Puis en même temps, probablement qu'ils vont dire, ben justement, si ça vous dérange tant que ça, ben faut que la ville agisse. Mais en même temps, la ville, moi, j'ai pas les détails. Là. Je peux pas véritablement commenter là, le contenu, mais c'est sur le salarial. Ouais. On parle de tu sais, 21,5% en 6 ans, tu parles de coût de la vie qui augmente, effectivement, c'est un gros rattrapage qui est demandé.
C'est un 3,4-3,5% d'année en année supplémentaire, puis on a un rattrapage de 2% de ce qu'on comprend. Là.
Fait que tu sais, c'est-tu assez? Je suis pas capable de le qualifier. Bon, là,
mais il y en a qui comparaient avec la ville de Lévis. Là, tantôt, il y a des gens qui nous écrivaient comme quoi eux sont plus payés du côté de Lévis. Là. Lévis gagne entre 3 et 6 $ de l'heure de plus que ceux qui sont à Québec poste pour poste. Il y a des gens qui nous donnaient l'information. Mais la majorité qui nous écrivent depuis ce matin, ce sont des travailleurs qui sont syndiqués et qui sont aussi révoltés des positions et des choix syndicaux de leurs représentants par rapport à cette grève-là. Ils nous parlent aussi d'assurance, comme quoi, si tu es un col bleu qui travaille sur les réseaux routiers, ben, tu souhaites avoir une assurance un petit peu meilleure que ce que tu as, tout simplement en avoir une pour 50 000 par année. Certains disent, hey, on risque notre vie maintenant chaque jour avec des automobilistes qui nous passent à 50, 60 et plus à côté de nous. On n'est pas assuré pour ça. On demande des conditions à côté, mais ils sont pas plus d'accord. Puis il y en a qui disent, hey, nous, on essaie de confronter nos représentants syndicaux. Ouais. Premièrement, on n'a pas d'informations. Ce qu'on a comme information, on l'apprend par les médias, c'est pas normal quand c'est notre cause principale puis qu'ils veulent qu'on milite pour eux. Puis pour eux étant le problème aussi, à quel moment on est rendu à dire que les travailleurs doivent militer pour leur syndicat versus le syndicat pour leurs travailleurs? Le switch là, est important à imager en ce moment. Là. Puis ça, c'est depuis des décennies maintenant que les syndicats militent plus pour les employés, mais c'est les employés qui doivent militer pour leur syndicat. La problématique est là. Il y a rien de transparent. Puis même les syndiqués déplorent ça.
Ben moi, ce que je trouve étonnant dans ce dossier-là, c'est que le syndicat n'a pas, en février, là, au début du mois, là, il y avait le vote, là, 1340 cols bleus, est-ce qu'ils ont tous voté? Mais il y avait quand même une question, ils n'ont pas pris position réellement. Ils n'ont pas recommandé l'offre, ils ne l'ont pas rejeté. Et les syndiqués dont tu parles, ils ont quand même rejeté à 90%. Fait qu'ils sont derrière leur syndicat, là. Moi, c'est sûr que si j'entends dire à prendre en compte les services essentiels qui ont été décidés, c'est tel que tel.
Mais je pense qu'ils sont de ce qu'ils nous
écrivent. Mais le message, il est un message de confiance solide à leurs délégués syndicaux, là.
Mais j'ai l'impression que ce qu'ils essaient de nous communiquer, c'est on a voté pour notre salaire et nos conditions. On n'a pas eu le choix parce que c'était la seule façon de se faire entendre. Mais on n'est pas nécessairement ceux qui décident la façon de faire la grève puis du reste. Puis en plus, quand c'est à porte close, on n'a pas d'informations autres que dans les médias. Il y a vraiment un vase clos qui est impressionnant, là. Puis c'est pas juste
les
avec l'école bleue.
Juste ce que j'entends. Ouais. La modalité de la grève comment déterminer les services essentiels.
Tu sais, là, qu'on ramasse pas ben manège en face de chez nous, 9 cm et tout ça, y a-t-il quelqu'un qui se lève chez vous?
Valérie s'en va gérer une réunion.
Je suis avec vous autres, c'est tout là.
Okay. Tu sais, que l'école bleue négocie, qu'il y a des augmentations de salaire, on est tous d'accord, mais c'est de toucher aux enfants. Ça me tue à chaque fois. Ils sont capables de ne pas ramasser la neige, exemple, en face de l'hôtel de ville pour faire suer Bruno Marchand. Ils sont capables de ne pas ramasser les poubelles dans le secteur de l'hôtel de ville pour que Bruno Marchand voit qu'il y a des moyens de pression qui sont pris. Puis ils sont capables de faire bien d'autres trucs, mais d'affecter les enfants pour ce qui est des loisirs et du sport, ça passe pas tant chez l'école bleue qui nous écrivent que chez les citoyens, puis même de mon côté, je veux dire, touchez pas à nos enfants, c'est la seule affaire qu'on vous demande.
Et là, c'est toute la guerre de l'opinion publique, hein, c'est au total, parce que la ville, votre marché, il est ferme, en même temps, il dit, moi, ce que je dis, c'est que pour les contribuables, là, je pense que 21,5, il y a bien des gens qui sont pas capables d'avoir ça dans leur milieu de travail, des petits salariés, des gens qui, bon, après, chacun va dire, ben non, moi, je le veux, puis, mais ça reste quand même que, si la ville dit, nous, c'est raisonnable, on va là, puis il y aura des conséquences, puis après ça, je trouve pas, moi, que les cols bleus expliquent si bien que ça leur position, parce que oui, le monétaire, c'est une chose, 5 $ avec Lévis, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a d'autres conditions derrière qui font que travailler à Québec, c'est intéressant? On dit qu'il y a un taux de rétention qui est faible, donc que les gens changent de job, n'ont pas de fierté à travailler pour la Ville de Québec. À un moment donné, ben là, c'est ça. Si on veut pas négocier sa place publique, ben il y a l'opinion publique qui, elle, va se faire son avis. Est-ce que c'est pression sur Marchand pour régler? Moi, quand on entend qu'il propose 21,5, c'est dur d'aller beaucoup plus haut que ça, je pense.
Ben, le maire Marchand est capable d'aller plus haut que ça quand ça touche ses affaires qu'il veut mettre en place, mais quand ça touche les employés de la ville, là, c'est la capacité de payer de la ville qui est importante. Mais le fond vert, par exemple, que je me suis ramassé en deux-sept puis que je me sers pour avoir un leg politique, ben ça, c'est ces millions-là, c'est C'est pas si grave que ça. Les gens sont capables de payer.
On va boucler la boucle parce que ce fameux leg politique qui sont les patinoires couvertes,
oui.
Elles seront entretenues avec des horaires modifiés quand même. Donc, il y a une affaire qui va être un petit peu moins touchée par la grippe. Bon, on va suivre ça. Hein, quand tu, des fois, tu m'as dit qu'est-ce qu'on suit ces prochains jours, ben ça va être beaucoup les impacts, le discours public dont vous parlez, les réactions des citoyens, des familles, des jeunes qui sont coupés. Tout ça, là, ça va jouer beaucoup, beaucoup dans la reprise des égaux.
Madame Godreau, on suit votre travail avec grande attention dans le soleil.
Pareillement.
Au revoir.
Merci, au revoir.
L'excellente Valérie Godreau qui nous fait des chroniques municipales avec qui on aime bien jaser chaque semaine. Elle est chroniqueuse au Soleil aussi depuis déjà quelques années. On aime lui jaser puis on lui parle à tous les mercredis. Je pense qu'elle apprécie aussi.
Oui.
Elle se met des alarmes. Quand c'est fini, c'est fini. Elle se met une
alarme. C'est fini, c'est fini. Puis vous, par contre, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, 88-971-1021.
Tu mets-tu les alarmes de même, toi, chez vous?
Les matins, je snooze 75 fois. Mais ceux qui veulent nous écrire par rapport au conflit, là, on prend toutes les informations. Vous dites que c'est pas transparent, que vous n'avez pas la facilité de faire valoir votre point, que vous en avez long à dire, ça va être un peu le courant qu'on va essayer de vous donner, là, soit l'ouverture d'en discuter avec nos intervenants en ondes. Yannick, je te dis, c'est en direct que tout le monde a son mot à dire en ce moment sur le cas. Là.
Ben, ce que j'aime, c'est que les gars de la ville écoutent radio.
Oui,
hein?
Écoute la radio, c'est sûr. Puis, écoute Boulevard,
radio.
J'écoute.
Ben oui, ils écoutent Radio Boulevard. On est là pour vous autres. 1058. Boulevard.